Bienvenue sur Graines d'IUT, animée par des étudiants en BUT Génie Biologique, parcours Agronomie de Digne-les-Bains. Notre émission est là pour vous divertir avec bonne humeur et spontanéité. Graines d'IUT, l'émission qui fait germer les idées.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral 99.3 à Digne-les-Bains. Nous sommes sur l'émission Graines d'IUT. Nous sommes quatre étudiants en agronomie à l'IUT de Digne-les-Bains. Donc je me présente, je suis Mathieu et j'ai avec... Excusez-moi, c'est le stress. Je suis avec Mathieu, Cyriel et Chloé. Je voulais dire bonjour.
Bonjour.
Bonsoir. Bonjour.
Donc nous allons ce soir parler de l'autonomie alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Avant cela, je vous laisse avec une petite musique.
Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe. Qu'elle, il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient bas. Aïe, 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 aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, 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 aïe. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, 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 aïe. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle.
On se retrouve donc pour parler d'autonomie alimentaire. Donc tout d'abord, je vais essayer de définir ce que c'est que l'autonomie alimentaire. C'est donc la capacité d'un territoire ou une population, voire une personne, à subvenir à ses besoins alimentaires de manière indépendante et autonome. On va ensuite voir quels sont les intérêts d'avoir une meilleure autonomie ou souveraineté alimentaire. Donc pour ça, il y a plusieurs points qu'on va aborder. Tout d'abord, on écoute Chloé qui va nous parler de l'intérêt économique.
Donc tout d'abord, on peut commencer par s'intéresser à la partie économique. Moins on dépend des importations, moins nous sommes exposés aux risques, qu'ils soient climatiques, économiques ou géopolitiques. De plus, en achetant les produits à nos agriculteurs, nous les soutenons directement. Consommer localement, c'est préserver des emplois, valoriser notre savoir-faire et assurer des revenus aux producteurs. Enfin, c'est une question d'indépendance. Avoir le contrôle sur notre alimentation, c'est éviter de subir les tensions internationales et les pénuries.
Avoir une autonomie alimentaire et une souveraineté alimentaire permet de protéger l'environnement sur divers aspects, puisque tout d'abord, on limite les importations et donc on diminue les pollutions liées au transport des marchandises. Et puis ensuite, dans les pays qui exportent les denrées que nous, on achète et qu'on consomme et qui viennent de l'extérieur, on a un environnement qui est modifié, puisque l'agriculture est productiviste et intensive pour produire et exporter en grande quantité. Ainsi, on a des grandes étendues cultivées d'une seule culture, de la monoculture. Donc le paysage est influé par le mode de production agricole du pays qui est là dans ce cas pour exporter. Si par exemple on prend au Brésil, ils font que beaucoup d'huile de palme, de soja, ils font des grandes monocultures, donc l'environnement est fortement modifié et impacté avec des techniques qui sont pas très agro-écologiques. Et puis si on fait une autonomie alimentaire, donc par exemple ici en Europe, l'autonomie alimentaire permet d'avoir une agriculture diversifiée. Donc si par exemple à Digne on a l'agriculture qui nous permet de produire tout ce qu'on consomme, on aura du maraîchage, de la grande culture, de l'arboriculture, des élevages, ce qui fait une diversité de cultures et donc une mosaïque paysagère importante et donc qui amène une diversité de cultures, donc d'espèces végétales, animales, etc. Et comme ça, on protège l'environnement en faisant des achats locaux et en faisant une autonomie, en étant le plus autonome possible pour l'alimentation.
Oui, donc voilà, finalement, ça va permettre de préserver tout ce qui est sol et la biodiversité dans le sol. Du moins, déjà en France, ça serait déjà pas mal de le faire. Oui.
Donc, si j'ai bien compris, d'après toi, Mathieu, simplement augmenter l'autonomie alimentaire permettrait de préserver la biodiversité et limiter les grandes cultures, comme on peut voir notamment classiquement au Brésil avec la déforestation et les grandes parcelles de soja.
Et non, justement, c'est là que se pose le second problème, c'est que si on veut produire tout ce qu'on consomme, il va falloir produire beaucoup de produits alimentaires. Et comme en France on est assez nombreux quand même, il va falloir, sur des surfaces qui sont de plus en plus réduites aujourd'hui, produire plus. Donc avoir une autonomie alimentaire, c'est pas forcément faire plus de mesures agroécologiques et pour l'environnement, mais ce qu'il faut, c'est essayer justement de faire le plus de mesures possibles pour protéger l'environnement en faisant en même temps une autonomie alimentaire, une souveraineté pour le pays et la population.
D'accord. J'aimerais rajouter qu'une meilleure autonomie permettrait aussi donc de mieux se nourrir, d'avoir une alimentation de meilleure qualité globalement, et donc aurait un fort impact sur notre santé. En effet, limiter l'importation et consommer des produits locaux permet de mieux connaître ce que l'on achète, ce avec quoi on se nourrit. Il est plus facile de savoir si la culture est plus ou moins intensive, de connaître les intrants qui sont utilisés. Et également, il est plus facile de savoir si en élevage, le bien-être animal est respecté, que lorsque l'on importe des produits de tel ou tel pays, il est parfois difficile d'effectuer des contrôles, notamment sur des pays plus hors Union européenne. Bien évidemment, cela a un impact fort sur notre santé et sur les pratiques que l'on veut favoriser.
Oui, moi après j'ai un autre intérêt aussi par rapport à ça, ça serait sur la géopolitique. En effet, le fait d'être autonome, du moins en France, bon, en Europe, tout dépend de l'échelle, ça permettrait qu'on soit moins dépendant des pays autour, dû à l'exportation. Effectivement, donc même actuellement, on est face à des problèmes comme les guerres qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Et on a eu justement, on a été submergé par l'absence de ressources qui pouvaient venir en France. Donc déjà, on manque de ressources, donc moins d'effectifs, mais aussi au fait de l'inflation. Donc on a déjà cette problématique-là. Après, on a aussi, on pourrait parler aussi de la surexploitation des terrains, donc que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays, mais aussi la surexploitation humaine. En effet, le fait que, donc, si on arrive à avoir une France autonome en termes d'alimentation, ça pourrait avoir un impact, on va dire, positif sur les autres pays. Donc on pourrait dire que, si on prend des grands guillemets, la surexploitation humaine se ferait plutôt dans des pays pauvres. Donc effectivement, toutes ces personnes seraient moins surexploitées vu qu'elles auraient besoin de moins produire pour les pays comme la France ou encore beaucoup d'autres là où ils exportent. Donc, ce qui permettrait eux aussi de pouvoir se nourrir de leur propre production.
Tout à fait.
Donc favoriser cette autonomie alimentaire apporte autant d'avantages, pourquoi d'après vous est-ce que ce n'est pas autant développé? Il ne leur tire pas des freins à développer cette façon de produire?
Si, il y a des freins. C'est pour ça justement que peu de personnes sont autonomes en alimentation et peu de pays aussi. Puisque, par exemple, tout d'abord, on a un frein majeur à l'autonomie alimentaire, surtout dans notre région, par exemple, la région PACA, où il y a beaucoup d'urbanisation. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui vivent en ville, ce qui fait que en ville, être autonome en alimentation, c'est compliqué, puisqu'on n'a pas forcément un petit bout de jardin pour cultiver ses plantes, élever ses animaux, etc. Et puis, d'une manière plus globale, c'est plus difficile de faire venir des plantes locales de la ville, puisque en ville, on produit peu de plantes. Et donc, il y a surtout la pression foncière qui est un problème, ce qui est la pression foncière, par exemple, en périurbain, puisque les zones périurbaines qui, avant, produisaient la nourriture pour les villes, aujourd'hui, avec l'extension des villes, elles sont grignotées peu à peu par les villes. Donc, on a plus de difficultés à produire en zone périurbaine, de la production pour nourrir les villes le plus localement possible en produisant à côté des villes, pour les villes. Et donc on est obligé de produire dans les autres espaces en faisant plus de production, plus intensive pour produire et déplacer de nombreuses matières pour nourrir les villes où il n'y a pas de production et les endroits où il n'y a pas de production aussi. Et puis, on ne peut pas forcément produire partout toutes les productions qui sont nécessaires. Donc, c'est quand même compliqué de faire... par exemple, on ne peut pas faire de l'élevage bovin en zone périurbaine. C'est assez compliqué. Donc, c'est difficile de faire véritablement une autonomie alimentaire locale autour de chez nous.
Oui, après, en plus de ça, c'est bien de vouloir bien faire, c'est sûr. Mais... En ce moment, encore actuellement, c'est vrai que c'est quand même encore compliqué de pouvoir produire pour pas cher, du moins en France. C'est vrai que c'est toujours beaucoup moins cher de pouvoir importer ou exporter de la France. On peut prendre exemple déjà sur le prix des semences. C'est vrai que le prix des semences est quand même assez excessif en France, donc ce qui rend toute la production assez chère. Donc pouvoir la vendre plus cher et justement qui est plus compliqué à vendre car les consommateurs... justement, essaye toujours de trouver, on va dire, toujours moins cher, même s'ils recherchent toujours la qualité. Et après, en plus de ça, les terres agricoles ont un prix qui excède pas mal aussi.
Oui.
On peut aussi penser que la disparition des techniques traditionnelles sont un frein à l'autonomie alimentaire, ce qui est le cas. Ces savoir-faire se perdent, c'est une partie de notre patrimoine et de notre identité qui s'efface. Nos agriculteurs transmettent depuis des générations des techniques adaptées à nos terroirs et à notre climat. Sans ces compétences, on appauvrit notre capacité à produire une alimentation de qualité adaptée à nos besoins. Perdre ces compétences, c'est aussi prendre le risque de dépendre de grands groupes agroalimentaires et agro-industriels. En somme, protéger nos métiers agricoles et nos techniques, c'est investir dans un futur plus sûr en ne mettant pas de côté nos savoir-faire.
C'est vrai. Il faut toujours... garder les compétences et les savoir-faire anciens que nous ont transmis les générations antérieures.
Puis ça sera toujours plus prometteur que d'essayer de trouver plus fort et encore plus fort.
S'ils l'ont fait avant, c'est que ça marche, quoi.
C'est ça, et ça a toujours été mieux.
Ouais. D'accord. Du coup, Mathieu, ce que tu nous proposes là, ça serait ça serait un morceau d'une solution pour arriver à favoriser cette autonomie, à développer ces processus.
Oui, bah, il faut revenir à une agriculture plus locale, plus, plus à petite échelle, des petites exploitations qui produisent un peu de polyculture un peu diversifiée pour produire un peu toutes les productions un peu partout, quoi. Et s'adapter au terroir et au climat, faire ce qui est faisable partout, au lieu de faire des trucs qui ne sont pas forcément adaptés.
D'accord. Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu verrais comme solution ?
Alors, en solution, il y en a plusieurs. On peut notamment parler de l'agriculture durable. Donc, nous devons continuer à nous orienter vers cette agriculture. Cela signifie adopter des pratiques qui respectent la nature, protègent la biodiversité et utilisent nos ressources de manière raisonnée, en limitant du coup l'usage excessif de pesticides et en favorisant la rotation des cultures, on préserve la qualité de nos sols et de notre eau.
Moi, après, j'ai aussi une autre petite solution à apporter qui pourrait convenir justement à peu près tout le monde, puisqu'on convive dans la campagne, dans un petit village, dans une petite ville ou bien dans une grande ville. On a tous autour de nous des marchés. Donc nous, ce que j'aimerais mettre en place, ou ce qu'on aimerait mettre en place, ça serait de justement soutenir le local. Donc on peut tous avoir un marché, ou sinon des petits producteurs, donc une petite boucherie, un petit fromager, qui serait toujours là près de chez nous. Donc c'est vrai que ça serait mieux de leur acheter à eux, plutôt que d'aller dans des grands supermarchés pour acheter de la viande qui viendrait de... même des fruits et des légumes qui viendraient d'Italie, d'Espagne ou bien du Maroc. Donc voilà, donner de l'argent, du soutien aux plus petits producteurs serait vraiment bénéfique pour eux, même pour nous, car on sait d'où vient, et même justement leur exploitation ne devrait pas être très loin si jamais on aimerait s'informer justement.
C'est très important d'acheter local et aux petits producteurs, puisqu'on peut tous faire quelque chose à notre échelle.
Oui, alors, merci, et puis de toute façon, ce qui est bien dans le fait que ce soit sur les marchés ou des trucs comme ça, c'est que ce sont des produits de saison. Donc finalement, ouais, ça reste du local, ouais, du bon pour même la planète, les sols, parce que même ça reste du local, justement. Si,
et il faut choisir ce qu'on mange un peu. Il faut éviter de manger des avocats, des bananes qui viennent d'on ne sait où. Il faut manger des produits... qui sont d'ici.
De saison également.
Voilà,
c'est
de saison.
C'est quand même important.
Et
c'est
des produits européens qui poussent chez nous, quoi. On ne va pas aller acheter des trucs, des mangues et des trucs comme ça, oui, importés dont on ne sait pas trop où, là.
Oui, exactement. C'est pas bien, quoi. Et puis, justement, pour revenir à cet aspect de saison, c'est quand même quelque chose qui est souvent oublié. On a envie de manger classiquement des tomates à Noël, etc.
Et c'est absurde.
Voilà, c'est ça.
Bah, elles n'ont pas forcément bon goût non plus.
C'est que de l'eau. C'est dégueulasse.
Tout à fait. Bon, du coup, on revient avec vous juste après la bouillabaisse de Fernandel pour vous parler des solutions que l'on peut mettre en œuvre au quotidien de manière personnelle et, par exemple, donner ce que l'on fait, nous, en tant qu'étudiants.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passe et ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis est sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles. 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile et safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis est sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite, Marie-Louise ou bien Susan. Ensemble on remue la marmite, en se bécotant tout le long. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, s'usant le fil ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Oh, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses, quand on revient il n'y a plus de bouillon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Si la bouillabaisse n'est pas bonne, c'est pas que Marius soit pas fort. Croyez-moi, c'est la faute à personne. C'est la faute à ce coquin de sort. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu, que c'est bon.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral 99.3 à Digne-les-Bains. Nous sommes quatre étudiants en agronomie à l'IUT de Digne. Donc nous parlons aujourd'hui de la souveraineté et de l'autonomie alimentaire. Dans cette deuxième partie, on va voir ce que l'on fait personnellement, en tant qu'étudiant particulièrement, pour essayer de favoriser cette autonomie et développer la souveraineté alimentaire.
Oui, alors, en effet, en fait, nous sommes des étudiants donc, en UIT génie biologique, donc spécialité agronomie. Et justement, notre cursus permet d'en apprendre plus sur l'agroécologie, donc toutes les manières de faire, et aussi sur l'écologie et l'agriculture durable. Chloé, tu as quelque chose que tu fais en
particulier ? Qu'est-ce que
tu fais, oui, oui, tout à fait. En étant étudiante, je privilégie les produits frais des agriculteurs locaux que je retrouve au marché. Ici, on a la chance à Digne-les-Bains d'avoir deux fois le marché, donc le mercredi et le samedi. J'achète localement et c'est non seulement pour savourer des aliments de qualité, mais aussi pour créer des liens avec ceux qui font vivre notre terroir et qui remplissent notre assiette. Oui, en plus, ça permet de voir directement les personnes avec qui on a traîné, justement, mais aussi les producteurs et tout, pouvoir leur parler,
oui, c'est ça.
Communiquer, voilà. Après, moi, au sein de l'IUT, enfin même nous, on est amené justement à faire certains projets. Donc moi, par exemple, avec Chloé, on a un projet qu'on fait à l'extérieur, enfin sur le côté extérieur de l'IUT, on fait un jardin. Donc ce jardin, on essaye de produire justement pour pouvoir en donner aux étudiants, mais aussi au personnel. Et on aimerait s'affilier donc à l'AMAP, donc c'est une association qui permet de donner des paniers aux étudiants, mais aussi à des personnes extérieures sous inscription, donner des paniers à 1 euro. Ça aide justement financièrement les étudiants. Donc ça reste sur justement des produits locaux qu'ils font directement. On a aussi un compost qu'on a posé à côté de notre jardin afin de pouvoir recycler la nourriture. Après, je ne sais pas si d'autres personnes ont des projets ou des trucs comme
si,
ça.
Si, justement... Avec Mathieu notamment et un autre camarade de classe, nous avons un projet qui vise à tester si la culture d'arachide est possible dans le département des Alpes d'Haute-Provence, à Fort-Calquier. La cacahuète est quand même un produit assez connu, tout le monde en consomme à l'apéritif, ou enfin, principalement à l'apéritif, en cru, ou alors le beurre de cacahuète qui est de plus en plus consommé. Et finalement, c'est une culture qui n'est pas produite en France, enfin, très, très marginalement. Il n'y a qu'une seule exploitation qui en fait pour le moment, qui est située dans les Landes. Et donc, la plupart de ces cacahuètes, des arachides, proviennent des États-Unis. Ensuite, donc, l'intérêt d'en cultiver en France, ce serait d'éviter les exportations qui viennent des États-Unis et éviter un transport important et donc réduire de ce point-là les émissions de gaz à effet de serre.
Ouais, c'est très important. Et on peut tous faire à notre échelle quelque chose. Hein. Par exemple, on est étudiant, on a parlé du marché. Moi, je vais au marché quasiment une fois par semaine. Puis j'achète tous mes produits, mes légumes, etc. C'est local et c'est très bon. Là, je suis étudiant, donc je suis pas chez moi, chez mes parents, mais chez mes parents, j'ai le potager. Donc là, j'ai planté des poireaux. Il y a les navets qui sont en train de pousser, donc c'est bien. On mange ses propres légumes, c'est hyper bien à faire. Puis il y a les poules qui mangent les épluchures. Comme ça, on a des œufs. On valorise les déchets comme ça. Il y a plein de cycles vertueux à faire. Hein. On a de l'herbe, on donne nos lapins. Les lapins, après, on fait lapin à la moutarde et tout va bien.
Ouais, c'est intéressant, il faut savoir,
faire les recettes.
Voilà, il faut savoir cuisiner, s'y intéresser un peu, mais ça rajoute une satisfaction quand on cuisine quelque chose qui...
De frais et qui vient de soi, ouais.
Ouais, qui vient de soi, c'est encore plus...
C'est trop bien.
Encore plus agréable. Mmh.
Bah pareil, chez moi, j'ai la chance d'avoir un jardin où mon père cultive nos légumes. Par contre, quand je suis à Digne-les-Bains, donc j'ai pas de jardin, alors j'ai aménagé des jardinières sur le rebord de ma fenêtre pour y faire pousser donc des herbes aromatiques et de la salade. Donc j'invite tout le monde à essayer. C'est une façon simple, ludique et accessible de profiter de produits frais et de reprendre conscience de nos aliments.
Oui, une bonne initiative de ta part, Chloé. Et pour revenir à ce qu'on peut faire, même à petite échelle, chez moi, par exemple, j'ai simplement quelques ruches qui me permettent d'avoir un petit peu de miel, donc d'avoir du sucre sans avoir à importer... notamment ou consommer du sucre de betterave qui est quand même de moins bonne qualité.
Et qui consomme beaucoup d'énergie pour être raffiné et faire un sucre.
Oui.
Donc les abeilles, elles produisent zéro CO2, c'est parfait.
Et oui. Puis pour l'avoir goûté son miel, c'est vrai qu'il est très bon. Donc,
Il cristallise un peu, mais il n'est pas mauvais. C'est du bon.
Merci.
Voilà.
Avec des petites crêpes, c'est vrai que c'est sympa.
Voilà. Et en parlant des crêpes, ce qui est important aussi, c'est de faire sa cuisine et de... utiliser des produits bruts qu'on achète, on sait ce qu'on achète, on va voir le producteur, on lui achète des patates, des carottes, on va chez le boucher, on achète un peu de viande, et puis on fait sa cuisine et tout, comme ça. Il ne faut pas acheter des plats préparés en supermarché, et tout ça, c'est moins bon.
En plus, c'est plein d'additifs.
On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ils nous balancent des trucs, c'est plein d'arômes, de colorants, etc. Donc, c'est toujours mieux la bonne cuisine qu'on fait chez nous.
Ça sera toujours meilleur, de toute façon. Et ça revient forcément moins cher, en fait. Quand on fait le calcul...
Puisque le prix de la main-d'œuvre, il n'est pas compté dans ce qu'on fait nous-mêmes.
Pour la quantité qu'on paye, c'est nous la main-d'œuvre. Ouais, exactement.
Donc, voilà. Il faut réfléchir à des techniques, un peu, prendre du recul un peu sur ce qu'on fait.
Oui, en plus, en parlant de nourriture, moi, ce que j'essaye aussi de faire, c'est d'éviter un maximum le gaspillage. Donc, j'essaye justement de... Déjà, quand je vais acheter, donc, que ce soit au marché ou dans des petits... un peu partout, j'essaye d'acheter ce qu'il me faut pour éviter de jeter, que ce soit périssable. Mais aussi, quand j'en fais, justement, j'essaye d'en faire une bonne quantité afin de ne pas devoir le jeter. Après, moi, j'utilise une application qui s'appelle Too Good To Go. Donc, c'est une appli qui... En fait, donc, ça va être des commerçants, des hypermarchés, des trucs comme ça, où ils font des paniers minimum à moitié prix, des aliments qui se périment le jour même. Et donc, ça nous permet déjà de payer moins cher de la nourriture qui pourrait nous plaire, ainsi qu'il n'y ait pas de perte économique pour les commerçants.
Ouais, c'est très bien. Éviter de gaspiller, c'est parfait. Ce qu'il faut faire, c'est faire son compost dans son jardin. Comme ça, on a du terreau après pour faire ses semis, pour planter des nouvelles plantes. Puis après, on les mange et puis on fait du compost.
C'est vrai, même pour les poules, on peut en
donner. Les déchets, on les donne aux poules. Les poules, elles font du fumier. Voilà. Si on a un petit carré d'herbe, on fait de l'herbe, on la donne aux lapins. Les lapins, ils font du fumier. On fait pousser d'autres trucs. Et il faut. Voilà, c'est des cercles vertueux naturels.
D'accord.
Comme le faisaient les anciens depuis toujours.
Ouais. Et merci beaucoup pour votre apport, vos solutions. Donc nous vous invitons vous aussi à essayer de trouver des solutions pour renforcer cette autonomie et favoriser des pratiques durables, et n'hésitez pas à vous informer sur le sujet via plein de sources diverses et variées. Merci de nous avoir écoutés sur Fréquence Mistral. Nous sommes l'émission Graines d'IUT. Je vous laisse avec Fatal Picard, Retour à la Terre.
Aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédale. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédale. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lapin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier oursin. De penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lémurien. La main dans la main avec le dernier pan.